Once upon a time, four of the best pilots in the U.S. Air Force trained to fly into space.
That's where we're going.
And they flew at the speed of sound to the very top of the sky.
They were destined to be the... Alors, je suis sûr que notre invité, Thomas Coe, bonjour Thomas.
Bonjour.
A reconnu ce petit son, on a dû vous la faire 100 fois, non ?
Oh, moi pas trop, mais j'ai reconnu en tout cas.
Donc c'était le trailer de Space Cowboys, un film que j'aime pas forcément, mais qui date du début des années 2000 avec Clint Eastwood, entre autres. Donc Thomas, donc représentant des Space Cowboys sur Des Bretzels et des Jeux, que présentes-tu à Des Bretzels et des Jeux pour les Space Cowboys ?
Alors, je présente principalement les extensions, les quatre extensions dans une boîte de Splendor, qui sont pas mal attendues par les fans du jeu.
Alors tu parles d'expansion ou de, je sais plus, c'est Sebduche qui parlait de modules.
Alors, en fait, dans une boîte, vous avez quatre extensions. Alors, c'est toujours un peu délicat d'arriver à parler. On l'a plus conçu comme des variations autour de Splendor, parce que ce qui fait un peu la beauté de Splendor, c'est sa simplicité.
Mm-hmm.
Et que donc, du coup, on a voulu respecter le jeu de Splendor, et tout en mettant des nouveautés, des variations autour de ce principe-là. Et je pense que ce que les gens apprécient, c'est quand même aussi sa simplicité, le fait de pouvoir le sortir, et qu'en même temps, ils voulaient avoir un peu de nouveauté. Donc, on a quatre extensions qui sont les cités, qui sont en fait où on joue sans les nobles, et on a un nouvel objectif de fin de partie.
Alors que l'objectif de base, c'est arriver à 15 points.
Voilà, maintenant, c'est ce qui est marqué sur la tuile cité. Donc, ça peut pas mal changer la dynamique. À la fois, c'est paradoxal parce que c'est presque plus simple que le jeu de base. Mais en même temps, ça change pas mal les habitudes, notamment au niveau de la réservation, où on va devoir bien viser les bonnes cartes. Et donc, du coup, ça peut aussi avoir sa petite technicité.
Et alors, ces cités, on les prend au début de la partie ou en cours de partie ?
C'est ça, on en met trois, en fait, quel que soit le nombre de joueurs. Il y en aura toujours trois. Et donc, voilà, ça change un petit peu la dynamique de jeu.
C'est même si on garde des
plus abordables,
des réflexes
des quatre, voilà. Si on garde des réflexes, on risque de peut-être perdre.
Ouais.
Mais je pense qu'il faut arriver à s'adapter.
C'est une extension à la, entre guillemets, Bruno Catala, où il dit c'est pour casser les routines qu'on a instaurées.
Voilà.
Parce que si vous regardez vos routines, ça ne marchera pas, quoi.
Voilà, c'est, à chaque fois, on a essayé de trouver des idées un petit peu différentes pour changer les choses. La deuxième extension, c'est une extension avec un petit plateau où en fait on va activer, on va poser nos blasons dessus et on va activer des pouvoirs, un peu comme pour les nobles. C'est, par exemple, les nobles, c'était d'avoir 3 fois 3 cartes devant soi. Là, ça va être par exemple d'avoir 3 cartes blanches et une rouge pour activer un pouvoir. Et donc, du coup, ça nous donne un pouvoir permanent jusqu'à la fin de la partie. Par exemple, le pouvoir que nos jetons or comptent comme 2 jetons plutôt que compter comme un seul jeton. Ce qui peut, en fait, on l'appelle entre nous un peu le fast splendor, ça peut accélérer un petit peu,
ouais,
le rythme de jeu. Ce qui est assez intéressant, c'est que le début, la première moitié de partie va ressembler énormément à un splendor classique, alors que la deuxième moitié va plutôt, ça va être un petit peu un peu tempête sur splendor, parce que ça va être un peu plus chaotique, mais comme
est-ce que vous avez repris le terme à Bruno Feidouti? Non, vous lui avez dit que vous appelez ça tempête
sur
splendor.
Non, mais c'est parce qu'il va y avoir un petit peu plus de chaos, mais comme on raccourcit un peu le temps de jeu, c'est un peu ce que j'appelle du chaos contrôlé, dès qu'on utilise le chaos, ça fait un peu frémir les gens.
Le joueur qui est en toi, parce que les jeux de 2 heures où il y a du chaos et où finalement t'attends 2 heures et t'es frustré, parce que là, si tu fais une partie plus courte,
donc,
du coup c'est moins frustrant.
On est vraiment dans la fin, ça va être mais qui va gagner, et il peut y avoir des déclenchements de pouvoir ou de choses qui vont un peu retourner la situation, ce qui est très plaisant aussi. La troisième extension, ça va être des nouvelles cartes, parce que je pense que les gens sont contents d'avoir des nouvelles cartes.
Les gros joueurs ont l'habitude de tous les...
Avec des petits pouvoirs. Notamment, par exemple, le pouvoir qui fait souvent tiquer les gens, c'est on va pouvoir réserver un noble, c'est-à-dire qu'on prend le noble devant soi et il n'y a plus que nous qui pouvons le réaliser.
On pouvait réserver une carte auparavant.
On peut réserver une carte qui pouvait être très
pénalisante.
Mais le
noble, de la même façon.
En fait, c'est pas plus violent que de réserver une carte. Ça change un petit peu les habitudes, et toute cette extension, les pouvoirs, tournent pas mal autour des nobles. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui vont accélérer nos achats pour acheter 2 cartes d'une même couleur, pour peut-être prendre par surprise quelqu'un et prendre un noble avant l'autre, ou le réserver, ou au contraire, on m'a pris un noble, comment je fais pour comment récupérer des points autrement que par les nobles.
D'accord.
C'est
réservation de nobles, d'accord.
Voilà. La dernière extension, c'est probablement la plus interactive. Les règles sont extrêmement simples et on joue avec en fait 3 bastions en fait à notre couleur. C'est probablement une de celles qui va faire le plus queener initialement. Va se révéler assez frustrante, parce que le principe, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un achat, on va pouvoir poser un bastion sur une des autres cartes visibles, et c'est un petit peu comme une réservation, mais c'est en gros, maintenant on ne peut plus prendre cette, il y a plus que nous qui pouvons prendre cette carte.
D'accord.
Donc quand on fait un achat,
on prend pas de jetons de joker en
soit,
plus.
Soit on, non voilà, on prend pas de jetons de joker. D'accord. Soit on pose à notre couleur, soit on retire une couleur adverse. Donc c'est pas non plus permanent, on va dire. Et quand on achète, bah forcément les bastions ils disparaissent, ils reviennent dans notre main. Et comme on en a que 3, il faut arriver à gérer ce pool de bastions. Et en fait, on a aussi une autre option dans le jeu, c'est qu'on peut concentrer nos 3 bastions sur une même carte. Et dans ce cas-là, l'action d'achat va devenir sera gratuite pour cette carte. C'est-à-dire qu'on doit quand même payer le coût, mais l'action en tant que telle sera gratuite. C'est-à-dire qu'on peut faire un achat, poser un bastion et refaire un autre achat dans la foulée. Donc on va avoir un dilemme entre bloquer un peu les autres ou accélérer son propre développement. Et donc du coup, ça rend le jeu parfois justement, là tu citais Bruno Catala au début, où il fallait un peu changer ses routines de jeu.
Ouais.
Là, il va assez vite, voire dès le premier achat, les gens vont se dire « Ah, bah, il va falloir que je fasse autre chose ». Et donc on va se diriger vers les cartes du niveau 2 ou prévoir des choses qui sont un peu différentes.
Et ça, c'est celle-ci, c'est celle qui ajoute le plus d'interaction. Alors Splendor a souvent été vu comme un jeu froid. Il y a quand même de l'interaction. Dès qu'on fait pas mal de parties, on voit que « Tiens, toi tu vas prendre ça, je vais la réserver même si c'est pas pour la faire parce que du coup ça te fera ses points en moins. » Donc il y avait quand même de l'interaction comme
Oui, bien sûr. Oui.
Mais là, ça en rajoute encore.
Ça met des variations et des curseurs un peu sur des nœuds différents. Voilà, c'est un peu l'esprit. C'est-à-dire que ça respecte énormément Splendor, mais en même temps, je pense que les gens voulaient de la nouveauté, voulaient du renouvellement, parce qu'ils aiment le jeu, et nous aussi d'ailleurs. Donc, c'est ce qu'on
a. C'est un jeu qui a marché, donc si tout le monde l'aimait et que ça avait fait 10 000, vous ne l'auriez peut-être pas fait là. Je sais pas si tu as les derniers chiffres de Splendor.
Alors, moi, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est un jeu qui a très très bien marché.
Plus de 200 000, je pense, maintenant à l'époque.
Et donc.
Donc voilà, c'est pertinent de faire une extension.
On l'a pas abordé vraiment comme, enfin quelque part, si on avait voulu faire quelque chose de plus commercial, on aurait peut-être fait une extension avant. Là, c'était vraiment par.
Ouais, parce que Splendor, c'est 2013, c'est ça.
Voilà, il y a aussi un gros plaisir de jeu sur Splendor et on a beaucoup de fans de Splendor au sein d'Espèce Cowboy, y compris le patron, et que quelque part c'était les premières personnes à devoir convaincre au final. Donc, on a déjà essayé de satisfaire les premiers fans qui sont déjà à l'intérieur de
Espèce Cowboy.
Mais bien sûr, on espère que tous les fans de Splendor seront ravis et trouveront en tout cas au moins 3 sur les 4 extensions qui leur plairont les 4 extensions.
On peut les jouer en même temps ?
Alors on ne peut pas les combiner parce que en fait on ne voulait pas transformer ça en usine à gaz.
Ouais.
Et donc du coup le message est que on doit les utiliser séparément.
De manière indépendante,
ça permet surtout de sortir un Splendor comme on le faisait avant, c'est-à-dire sans trop changer les règles,
sans
noyer les gens. Donc c'était un peu l'esprit.
D'accord.
La deuxième chose que je présente du coup, c'était
jeu sur Splendor. Le jeu de base était en 2013, c'est ça? 2014, je sais plus.
Tu me colles en fait.
Mais du coup, ça fait quand même quelques années. Hein, il a très vite bien marché.
Oui.
Et c'est Marc-André qui a travaillé sur les extensions. En plus des Space Cowboys.
Il a fait des propositions et nous après on a travaillé interne dessus. Donc c'est bien sûr des extensions où on a travaillé main dans la main.
Et ça fait combien de temps que vous commencez à travailler dessus? Parce que comme dit, Splendor, ça fait quand même quelques années maintenant qu'il est sorti.
Ça fait 8 mois que les extensions sont dans le tuyau.
Ouais.
Voilà, donc à peu près. Mais bon, c'est vrai que une fois qu'on avait une idée claire de là où on voulait aller, ça pouvait se faire assez rapidement. Et en fait, on a aussi pas mal profité du salon de Cannes pour voir la première réaction du public et ajuster. Par rapport à cette première réaction, donc on a essayé d'être à l'écoute de ce que voulaient les gens et j'espère que les gens seront satisfaits.
Elles sortent quand ces extensions? Il y a une date prévue?
Mi-août,
d'accord, donc avant la rentrée pour finir sur les vacances.
Voilà, ça aurait été mieux avec les barbecues de l'été,
on pourra encore en faire fin août. Donc ça, c'est Splendor, donc les extensions. Donc il y a aussi des présentations de Splendor classique, j'imagine, qui continue de marcher.
Là pour l'instant, les gens ont plutôt envie de
ouais, c'est
de
les connaisseurs
jouer,
déjà.
Ils connaissent assez souvent, les gens s'arrêtent parce qu'ils connaissent Splendor sur le salon, et même s'ils connaissaient pas Splendor, je pourrais presque les faire jouer avec l'extension par exemple des cités. Elle marche très bien aussi avec des gens qui voudraient découvrir le jeu.
D'accord.
Donc en fait on peut faire jouer on peut faire jouer en fonction des envies des gens, mais principalement là pour l'instant j'ai fait jouer surtout les extensions.
D'accord, donc ça c'est Splendor et Unlock toujours?
Unlock, du coup parce que y a quand même Unlock 2 qui arrive mi-juillet.
Unlock 2 qui sera constitué de
trois nouvelles aventures, le manoir hanté, les secrets les pièges du Nautilus, je ne sais plus exactement le titre exact, au cœur du Nautilus.
D'accord.
Et la troisième, c'est donc Tony Pal, le trader de Tony Pal, thématique pirate. Donc,
d'accord.
Un manoir hanté, de la plongée sous-marine et des pirates.
Et toujours des auteurs différents pour chacune des aventures, ou c'est des auteurs qu'on aura déjà vus sur d'autres aventures
d'Unlock ? Des auteurs différents. Oui, il y a des auteurs différents, et notamment la première boîte, c'était plutôt des auteurs en interne.
Ouais.
La deuxième
boîte,
qui
avait participé.
La troisième, en fait, Lille. Et sur la deuxième boîte, on a des auteurs de. Donc, notamment, par exemple, la première, le manoir hanté, c'est Fabrice Maza qui a fait aussi le grand livre des énigmes, qui est plus connu en librairie,
ouais.
Qui est assez connu en librairie. Et donc voilà. Quoi.
Et au niveau des illustrateurs, alors vous étiez allé chercher Le Grut, qui est connu pour chez ZQSD, pour illustrer JV et pour être aussi illustrateur de BD. Mm. Est-ce que vous êtes allé chercher encore des illustrateurs un peu hors du circuit comme ça ?
Alors, on a pris des illustrateurs à chaque fois un peu différents. De toute façon. Après, c'est pas forcément aussi marqué que pouvait être Le Grut. Donc, il n'y a pas de style BD-BD au même niveau, mais on essaye à chaque fois, un peu comme Time Stories, en fait, on essaye toujours de trouver
des trucs à identité un peu.
Des pattes différentes, parce que ça participe, entre guillemets, au renouvellement de l'expérience. C'est pareil, en fait, sur le salon, en fait, on fait des démos, on a deux scénarios de démos, et globalement, pour tous nos jeux narratifs maintenant sur les salons, on a essayé de justement faire
vous aviez commencé déjà avec Time Stories, voilà. C'est aussi le cas avec Sherlock, par exemple.
On a le scénario pirate, le préquel pirate pour Time Stories. On a un mini feuillet de 4 pages pour Sherlock Holmes.
D'accord.
Pour essayer de faire une enquête de Sherlock Holmes qui donne bien le feeling d'une enquête, mais en 3 quarts d'heure. Donc,
Pour Unlock,
on a donc la 5e avenue et l'élite. Qui sont aussi téléchargeables en fait sur notre site si les gens ne peuvent pas aller sur le salon.
Ouais.
Et puis après, on a aussi pour Watson et Holmes, qui était un autre jeu, on avait aussi un scénario de démo, mais là c'est une vieillerie d'il y a un an, donc on le montre moins sur les salons.
D'accord, ouais.
Donc voilà.
Il a fonctionné celui-là, parce que Sherlock Holmes, c'est un gros succès.
Oui, on va faire un retirage, en français. Oui, je sais pas s'il est dans l'ombre de Sherlock, je pense pas. En fait, il a sa personnalité propre et il a bien fonctionné, donc on en On est content que tous ces jeux narratifs fonctionnent, parce que ça fait un petit peu notre marque de fabrique.
C'est vrai que le nom des Space Cowboys s'est lancé sur le nom de Time Stories aussi à l'époque, de manière un peu obscure par moment. On se disait, ils ont formé les Space Cowboys pour faire Time Stories, alors qu'en fait c'était pas exactement ça, c'était plutôt ils ont formé les Space Cowboys, Seb a ramené Time Stories et vous avez fini par le faire.
La formation des Space Cowboys a surtout été de mettre un certain nombre de personnes ensemble et d'avancer sur les envies.
Ah, c'est ça.
Plus que sur les contraintes, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation non plus à se dire on sort un jeu parce que il faut sortir un jeu tous les 6 mois, sinon on n'arrive pas à s'en sortir. Là, on a quand même aussi le luxe de se dire qu'on peut fonctionner sur les envies, sur pousser au maximum le jeu en lui-même. C'est une philosophie un peu différente et intéressante.
Ouais, c'était audacieux là. Time Stories, il y a du Man Fidei qui vient de sortir.
Oui.
On voit qu'il y a des sorties quand même régulières de scénarios et que ça continue à marcher. Ouais.
Pour la fin d'année, du coup, on va avoir Estrella Drive qui va sortir, qui est un univers un petit peu plus sombre que l'univers habituel. Et en même temps, en parallèle, on va avoir Les Pirates, justement, qui va être un univers plus aventure, plus joyeux, on va dire.
Ouais. C'est vrai que c'était audacieux. C'était un pari de dire on va vendre un truc jouable une fois. Et finalement, on voit que ça a fonctionné, alors qu'il y avait beaucoup de sceptiques au début qui se disaient mais acheter 40€ une boîte que je vais pouvoir jouer qu'une fois. Finalement, on voit que vu que vous continuez à sortir des scénarios, c'est que ça fonctionne.
Ça flirte à la croisée de plein de chemins, c'est-à-dire que ça choquait personne d'acheter un scénario de jeu de rôle qu'on ne jouait qu'une fois. Bon, après, c'était peut-être que 10€, mais en fait, le côté un petit peu jetable, mais expérience unique, c'est aussi... c'est un peu comme on va voir un quand on voit un film pour la première fois, c'est pas le même sentiment, c'est pas la même perception, et que d'aller dans une salle obscure, ça peut être bien. Là, avoir une expérience unique sur un scénario précis et ce que ça crée, c'est intéressant. Comme les aspects aussi Legacy, qui justement veulent pousser ces côtés un peu uniques, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et c'est intéressant.
Et est-ce que vous voyez à chaque sortie de scénario une réamorce des ventes de la boîte de base
sur
Time Stories?
Alors je t'avoue que moi je suis un peu distant par rapport
aux chiffres,
mais j'ai envie de te dire que oui, en fait, dans l'absolu, de toute façon, enfin moi le de par mon histoire, je connaissais plus les chiffres par rapport à Sherlock Holmes, et que globalement, les extensions et le jeu de base se vendaient mieux de toute façon quand les deux étaient disponibles. D'accord. Et que, en effet, les extensions relançaient un peu le jeu de base, la machine. Et donc, du coup, c'est forcément, si tu veux vendre un jeu de base, il faut qu'il soit suivi.
Et à partir du moment où il est suivi,
c'est ce qu'on essaye de faire, ouais, tout en gardant la qualité.
De cercle vertueux, quoi.
C'est assez compliqué de tenir un rythme régulier, mais on essaye de fournir. On a déjà deux, entre guillemets, actés pour l'année prochaine.
D'accord,
en termes de thèmes, dont je ne parle pas pour l'instant parce que c'est pas la peine d'en parler trop tôt non plus. Mais on est sur un rythme régulier. Idéalement, trois par an, c'est ce qu'on essaye de viser. Et ça serait bien de s'y tenir.
Donc voilà. Splendor et ses extensions, Unlock, Time Story, j'ai vu une boîte aussi encore.
Oui, parce que j'ai le préquel pirate qui est là. D'accord, donc en fait, en fonction des envies et de demandes, on peut varier, quoi.
D'accord, ok.
Voilà.
Donc là, ça c'est pour les Space Cowboys, rien de plus pour cette année de particulier. Et là, vous êtes un peu dans. Il y a Ubisoft qui parlait du jeu comme service, il y a aussi cette dynamique-là quelque part avec des jeux que vous suivez sur le long terme.
Là, on a envie quand même aussi de pousser des jeux comme en effet Time Stories, Unlock. Unlock, donc du coup, on sort le 2 mi-juillet, mais on est déjà en train de travailler sur une troisième boîte. Mm-hmm. Pour la même raison, c'est que si on le pousse pas maintenant, si on crée pas cette dynamique-là, les gens sont en attente et ont envie d'expérience. Comme le mouvement des escape rooms s'est lancé, mais sauf que quelque part on est un petit peu tout seul à devoir lancer ce mouvement là alors que dans les escape rooms en vrai c'est un mouvement entre guillemets national et ouais, collectif qui s'est lancé. Donc je pense qu'il faut répondre aux attentes des gens et dans le moment présent et installer les choses parce qu'on en est fiers et qu'on a envie que le jeu dure le plus longtemps possible.
D'accord, voilà. Alors je crois qu'on a fait le tour sur les spectateurs. Quand même un petit mot sur Istari qui le dernier jeu c'était l'extension de Shakespeare Backstage Stage, il me semble.
Oui,
après il y avait
et puis les
dernières productions des Space Cowboys, soit Witness, Pyrium, etc., étaient des très bons jeux. Et les joueurs se demandent Istari. Mais Istari, que faites-vous?
Istari existe encore en termes d'entreprise, de structure. Le seul petit point, c'est qu'en fait, comme c'est extrêmement dépendant du temps des personnes,
que ce soit toi ou Cyril, pour le coup.
Donc voilà, comme ça se reposait beaucoup sur Cyril, puis après sur Cyril et moi, et que actuellement on est plutôt booké sur des projets qui nous passionnent tout autant, hein, parce que Unlock, si ça n'avait pas été Space Cowboys, ça aurait pu être Istari aussi, parce qu'on a fait Witness, mais c'était plus logique dans cette dynamique là de toute façon. Et on met toute notre expertise là-dedans, donc quelque part on travaille.
Vous pouvez pas vous dédoubler.
On travaille, donc l'esprit Istari, il existe d'une certaine manière, peut-être plus invisible parce que c'est un travail, quand on fait quelque chose chez Space Cowboy, du coup c'est plus un travail d'équipe, donc du coup il y a une synthèse de ce que tout le monde peut produire, donc quelque part l'esprit Istari il est encore là parce que il est surtout basé sur des personnes et c'est vrai qu'on a des projets qui sont en sommeil et on en est un petit peu frustré aussi, mais on se dit aussi que de toute façon on va pas non plus se forcer si on peut pas développer et pousser le jeu jusqu'au bout, c'est pas la peine de se forcer à sortir des choses si on n'en est pas satisfait. Donc
il y a quand même des choses dans les cartons que éventuellement à terme d'ici quelques années, il y a des choses.
Pendant 3 ans ou 4 ans on ne publie rien et qu'on ressort un Istari, est-ce que il y aura une envie ou un engouement, on espère, mais la porte n'est pas fermée, on n'a pas de directive politique à ne pas faire des jeux Istari, c'est plus une question de pouvoir le faire effectivement dans la pratique.
Istari existe, mais pour l'instant est en sommeil du fait du temps qui n'est pas dédoublable pour personne.
Voilà, mais en même temps, moi je suis très content de bosser sur tous les jeux sur lesquels je bosse. Donc en fait, quelque part, on met notre savoir-faire, on essaye de mettre notre passion comme on le faisait pour Istari, on essaye de le mettre à d'autres services et dans d'autres contextes, qui est tout aussi intéressant.
D'accord, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou si le festival se passe bien pour l'instant.
Pour l'instant on a encore du soleil. Pour l'instant la matinée c'est plutôt bien passé. Je pense que ça va être un petit peu plus dense sur l'après-midi.
Ouais. Qu'il va y avoir des tapis de danse, non?
Non.
Non, ça pourrait être une idée. Vous avez pris une table en intérieur, il y a aussi des tables en extérieur, par rapport à la météo. Je sais que les tables en intérieur étaient un peu plus chères qu'en extérieur, mais
Je t'avoue que moi je suis pas rentré du tout dans des considérations puisque la réservation l'animation, c'est pas moi qui m'en suis occupé. Non, je pense que surtout on a des jeux qui on peut les jouer en extérieur, mais je pense que par exemple pour Splendor c'est presque plus agréable en intérieur. Après on est plus sûr aussi en fonction de la météo, donc donc voilà,
vous serez en extérieur à Paris et Ludic de toute façon.
Je sais pas si c'est un choix délibéré, je t'avoue, moi ça me va très bien comme ça, donc voilà, il en faut à l'intérieur et à l'extérieur.
Ça
évitera que je prenne un gros coup de soleil sur le crâne parce que je suis un petit peu dégarni à cet endroit là
d'accord, voilà. Ok, on vous retrouve à Paris Ludic de toute façon, je pense.
Oui,
ça marche. Ok, bah écoute, merci
merci
et
à
puis
toi.
À une prochaine, salut.
Salut.